Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Georgina Grénon, la directrice excellence environnementale de Paris 2024. Je suis absolument ravie de te recroiser, puisque je t'avais croisée lors d'une animation de table ronde. Et j'avais adoré justement la façon dont tu incarnais les messages clés, les messages forts sur le développement durable du coup de Paris 2024. C'est des enjeux. Et donc, j'ai envie qu'on en parle ensemble ici dans l'empreinte.
Eh bien, merci. Merci, le plaisir est tout pour moi.
Alors, par quoi commencer ? Parce que c'est quand même... Les enjeux sont grands hein, pour réduire au maximum l'empreinte carbone de ces jeux, sensibiliser les populations, créer, développer de nouveaux outils. Voilà. Par quoi tu as envie de commencer, toi ?
J'ai envie de commencer pour te dire qu'on a une ambition. Mmh. Une ambition qui est de faire des jeux plus responsables. Des jeux qui vont être plus inclusifs aussi. Qui vont nous aider à changer des pratiques. Tant sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de la santé, pour faire plus de sport, pour changer aussi le regard sur les handicaps.
Voilà. Le handisport, c'est un sujet, ça aussi, en plus. Hein.
Exactement. Nous, on organise les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. Et c'est autant d'opportunités pour faire en sorte que ces Jeux soient utiles. Voilà. Donc, depuis la candidature, on s'est rendu compte que les Jeux... En fait, le sport, au sens large, il souffre aujourd'hui de changements climatiques. Il suffit de voir la chaleur qui empêche les athlètes de bien performer, ou même nous, de courir, ou les manques de neige pour le sport d'hiver. Le sport, il est affecté aujourd'hui par les changements climatiques, mais le sport, en quelque sorte, comme toute activité humaine, il contribue aussi à ces changements climatiques. Donc, depuis la candidature, il était question de faire ces Jeux à Paris aussi pour des Jeux qui prennent conscience de son impact, qui vont chercher à les réduire au maximum et qui vont aussi essayer de faire bouger les lignes. Et c'est ça, en fait.
C'est le gros enjeu, quand même.
L'objectif des bases, c'était de dire... Les Jeux, c'est tous les 100 ans, à Paris, en tout cas, les Jeux d'été. Donc, essayons quand même.
Et dans 100 ans, c'est pas ce qu'il en sera.
Et dans 100 ans, Dieu sera.
Ouais, c'est ça.
Donc, nous avons une conviction, c'est que le jeu... En fait, le sport peut tout changer.
C'est vrai.
Ça fait partie
c'est vrai.
Voilà. Le sport peut tout changer. Et du coup, les Jeux, ils peuvent, en quelque sorte, être, on va dire, un laboratoire.
Plein air, en plus. Un laboratoire ouvert.
C'est un laboratoire ouvert. Les Jeux sont... Mettons peut-être quelques chiffres pour rappeler de quoi on parle quand on parle des Jeux. On parle des 15 000 athlètes. C'est les plus grands événements du monde. Hein.
Oui, donc en plus des gens qui ont de l'influence, qui ont un pouvoir de véhiculer des messages forts.
C'est ça, c'est 15 000 athlètes, c'est 20 000 journalistes, c'est 13 millions de tickets qui vont être vendus. Donc, autant de personnes qui vont participer à un moment donné dans un stade. C'est... plus entre 3, on va dire 4 milliards de personnes qui vont les suivre à la télé. Donc, c'est les plus grands événements du monde. Et on aime bien dire qu'on est face au plus grand défi de l'humanité. Voilà. Rien que ça.
Ça va Comment tu dors la nuit?
Voilà. et du coup, c'est l'opportunité.
Exactement. Ouais.
De faire des jeux en laboratoire. Quand on dit en laboratoire, pourquoi? C'est parce qu'on va essayer des choses.
T'essayes quoi, par exemple?
Changer les modèles de distribution de boissons, par
exemple. Ouais.
On va en parler sûrement, mais on essaye d'organiser les jeux, mais sans construire.
Ah oui, en refaisant
exactement,
sur du...
Exactement, ouais, nous, on part sur...
Infrastructures, hein.
C'est ça, on a... Donc, nous, on part sur 95% d'infrastructures existantes au temporaire. 95% d'infrastructures existantes au temporaire. Du coup, okay, ça, par rapport à d'autres jeux dans lesquels on construisait, je passe.
Et t'inclus tout là-dedans? T'inclus tout?
Ah ben oui.
Ah d'accord.
Oui. Ouais. Du coup, rien... Disons, pour ces jeux, qu'est-ce qu'on construit? On construit les villages des athlètes.
C'est ça, j'ai te demandé.
En fait... On construit un éco-quartier que Paris 2024 loue pendant un an pour les Jeux.
Et tu vas le construire de façon responsable, j'imagine aussi.
Tout à fait. En fait, il y a des nouvelles techniques de construction qui ont été utilisées. Toute cette information va être publique bientôt.
D'accord, c'est bien, c'est un petit teasing.
Des nouvelles techniques de construction qui ont permis de réduire l'empreinte carbone par mètre carré des 30% par rapport à une bonne construction moderne.
Et donc, en plus, ça, c'est vous qui l'avez développé et que vous allez mettre en open innovation pour que le bâtiment soit tiré vers le haut. C'est déjà de l'innovation qui était là.
Ce qu'on a fait, c'est écrire tout ça dans des cahiers des charges qui ont donné lieu à des projets. Projets qui se sont construits, qui sont en train
Ce sera utile pour le bâtiment.
Et après, ça sera utile. Mais ce sont des nouvelles techniques qui ont été proposées par les promoteurs.
C'est
eux qui vont après l'exploiter.
Mais vous les avez quand même tirés vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une demande, forcément, ils vont plus se triturer les méninges, on va dire. Et donc après, ça crée une innovation que tu vas mettre à l'échelle. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper important de ne pas exclure les entreprises et des gens qui ont le pouvoir ou des événements comme ça. C'est que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir créer l'innovation, la mettre à l'échelle et accélérer justement la transition vers ces innovations plus vertes, tu vois.
C'est ça, mais c'est les jeux, en fait. C'est les pouvoirs des jeux, de les rassembler, de faire converger dans un espace-temps tout un tas d'initiatives, de motivations à aller sur des choses qui, peut-être à un autre moment, dans d'autres circonstances, ne se seraient pas faites. Voilà. Et c'est pour ça que
je pense qu'en plus, il y a une espèce de petite envie en plus pour les jeux. Tu sais, un petit... moi, je veux y être, tu vois. Je veux en être, donc je pense qu'il y a quand même une aura. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Une aura un peu autour des jeux où ça stimule un peu plus ceux qui vont peut-être proposer des solutions.
Eh bien, ça stimule la créativité, ça stimule les dépassements. En quelque sorte, on est tous un peu inspirés par les athlètes.
Bah oui, en fait, on est en compétition.
On est
déjà.
En compétition.
Pour intégrer les jeux, on est en compétition.
On peut le voir comme ça, mais aussi par un esprit des dépassements
c'est
de soi.
C'est ça, l'abnégation.
Un athlète, il vient au jeu en essayant de donner le maximum, en essayant d'aller vers la médaille. Il se prépare toute une vie. Nous, on ne peut pas faire au moins quelque chose. Il faut vraiment qu'on se dépasse tous collectivement. Et c'est là un peu le pouvoir des rassemblements de jeux, de mettre ensemble des acteurs, que ce soit public, ça peut être les villes d'accueil, l'État, des acteurs territoriaux, des entreprises privées, les sponsors des jeux. Tout ce genre-là, tout cet univers-là, qui travaille ensemble pour apporter des solutions. Et pour ça, je reviens à ce concept des laboratoires. Laboratoires, pourquoi ? Parce que si on veut faire des jeux différents, si on veut montrer qu'un autre modèle est possible, si on veut garder les émotions du sport, tout ce qu'est les jeux, sur cette communauté internationale qui se retrouve, si on veut garder l'esprit des jeux, on ne peut pas organiser ces jeux comme on le faisait auparavant.
Et puis avec la mobilité, je pense que c'est impossible. Sinon, donc, tu exploses l'empreinte carbone. Je ne sais pas si tu as déjà calculé des empreintes carbone d'autres jeux. Ça doit être énorme.
On a tout calculé, mais ce n'est pas qui l'empreinte carbone.
Ouais. C'est quel impact on va laisser
c'est
aussi.
C'est l'impact au sens large. Donc, nous, on s'est dit, le jeu, super, mais pas comme avant. Donc, il faut aller réinventer ces jeux. Et qui dit réinventer ces jeux, dit d'abord comprendre ses impacts. C'est un peu notre méthode tout au long de travail, on va dire, de ces années de préparation. C'est déjà de comprendre les impacts et de voir comment on peut aller réduire les impacts dans chacune des activités nécessaires à la livraison des jeux. Donc, de tout ça découle un certain nombre d'actions déjà faites ou en cours pour réduire nos émissions des 50% par rapport aux jeux précédents. Donc, on s'est donné cette ambition un peu folle d'être les premiers jeux alignés avec l'accord de Paris, c'est-à-dire des jeux qui réduisent ces émissions de 50%. Et aussi pour toutes les émissions que l'on n'aura pas pu réduire ou éviter, on va financer des projets, des contributions climatiques.
Et petit teasing, alors je ne sais pas si tu as le droit de le dire, tu penses que vous allez y arriver, vous allez réduire ?
On est en route,
okay.
On est en cours, okay. Il nous reste une année de travail.
Ouais, c'est ça.
une année sur une année. 6 années, c'est pas net. Oh,
tu vas encore moins dormir cette année-là, je pense.
Il y a beaucoup de travail, mais on n'est pas seul. C'est oui, ça la c'est chance. Ça. On le disait tout à l'heure, c'est tout un écosystème qui s'est retroussé les manches et qui avance pour apporter les solutions. Donc, je parlais carbone. Je parlais aussi d'énergie, par exemple. Donc, premier jeu, 100% énergie renouvelable. Et pourquoi on le fait? Parce que on arrive.
Tu le fais comment en énergie renouvelable? Tu mets du solaire, du solaire.
Déjà, on met des câbles. Tu vas rire, mais il a fallu commencer pour s'assurer qu'on ait l'électricité sur nos sites, les sites de nos événements. Parce que, par exemple, les gens l'ignorent, mais en bas de la Tour Eiffel, tous les 14 juillet, quand on fait des événements de feux d'artifice, etc. Tout ça, c'est fait avec des groupes électrogènes. Il n'y a pas suffisamment d'électricité à la Tour Eiffel. Nous, on va installer un stade temporaire pour 15 000 personnes. Il n'y avait pas assez de réseaux.
Et du coup, ce réseau, vous allez le créer et le laisser?
Exactement.
Ah, c'est génial.
Exactement.
Ça.
Donc, tout
pour
ça, c'est.
Pour servir en fait, à des événements après.
C'est ça, c'est Enedis, donc distributeur d'électricité et partenaire des jeux, qui est en train de construire justement cette puissance additionnelle, cette capacité à livrer de l'électricité aux Invalides, à la Tour Eiffel.
Donc, il y aura peu de choses, finalement, qui seront, entre guillemets, détruites après les Jeux. Finalement, ce que vous allez construire et créer, même si, bon, il y a des choses temporaires, comme tu disais, le village ou... D'ailleurs, même le village, tu vas le réutiliser.
Non, le village est un écocartier.
Bon, alors, un stade temporaire.
Un stade temporaire, en bas de la Tour Eiffel, ça va être démonté, pas détruit.
Donc, il n'y aura rien qui sera gâché.
L'idée, c'est que... la grande majorité, la totalité, on espère, mais c'est très dur de dire 100%.
Oui, non, c'est pour ça. Moi, je suis plus dans le...
On fait appel à des choses louées ou des choses qui peuvent être réemployées, réutilisées dans d'autres événements. C'est ça le but. C'est tout le travail, par exemple, avec les architectes.
Et puis, en fait, du coup, comme il y a cette émulation, et il y a surtout cette deadline, c'est pour ça que tout le monde se met à fond. Et donc, tu crées beaucoup plus vite de choses que si on avait laissé, on va dire, s'il n'y avait pas eu les Jeux.
Il y a aussi... Ouais, cet effet d'entraînement, comme tu dis, mais aussi la visibilité qui fait qu'il y a une volonté aussi de s'y dépasser. Et j'insiste de montrer qu'un autre modèle est possible.
Oui, puis vous avez fait quand même un audit, finalement, territorial. Parce que vous avez audité, comme là, tu me parlais de la Tour Eiffel. Personne n'y avait spécialement pensé, je pense, à ces groupes électrogènes. Peut-être
Non, oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être dû penser. Mais après, il y a la force aussi d'un événement qui va rester, pas une nuit, mais plusieurs jours, avec plusieurs événements. C'est les Jeux Olympiques, Paralympiques. Ouais. Donc, cela étant dit, par exemple, la solution qu'on va déployer là, c'est un raccordement escamotable, en gros, qu'on cache pendant que l'événement n'est pas visible. Et quand on a besoin, on le sort et on peut venir brancher un événement. On a déjà installé ça à la Concorde, à Trocadéro, etc. Et on a proposé, avec Enedis et l'État français qui cofinance, on a proposé ça pour 300 villes en France. Donc,
c'est
on a fait
génial.
L'appel. Il y a déjà un bon nombre de villes qui ont manifesté leur intérêt pour qu'on fasse cette installation. Et du coup, par exemple, des villes qui vont accueillir le relais de la flamme, au moment où ils vont faire une célébration au centre du village, eux, ils puissent utiliser la même technologie
et
s'est passé des groupes électrogènes. Voilà. Il y a tout un tas d'initiatives. Mais pour ça, il a fallu aussi travailler avec les broadcasters, parce que les broadcasters, ils ont l'habitude...
Je croyais que tu allais dire les podcasters, je fais « Ah bah bon !»
Non, les broadcasters, parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler avec... dès qu'à la télé, en général, ils préfèrent des groupes électrogènes, parce qu'ils ont plus de la confiance que d'utiliser un réseau. Donc, il y a tout un travail pour dire « En France, pour les Jeux, notre réseau, il est bien, il est fiable. » toute une petite infrastructure additionnelle, mais qui va permettre non seulement de décarboner les stades pour nous, mais de le faire pour d'autres, sans pour la suite.
Est-ce que tu as d'autres exemples de la sorte, de choses comme ça qui sortent un peu du lot en termes d'innovation que vous avez mis en place?
L'énergie, c'est un gros...
C'est pour ça que c'est...
C'est pas très visible et c'est pas très public, les gens ne se posent pas la question. Ouais. Mais j'insiste, avant de pouvoir avoir du renouvelable, des électrons propres, il faut avoir des câbles. Simple. Je pourrais parler de restauration, par exemple. Sur la restauration, pour te donner des chiffres, on doit servir 13 millions de repas en 2 fois 15 jours. La ville de Paris sert ça en 6 mois.
Ouais, et tu comptes en fait toute la restauration existante, tu comptes les restaurants ou même
en fait,
pas
Non, non. Là, non, je compte la responsabilité de Paris 2024, c'est-à-dire donner à manger aux athlètes.
D'accord.
Avec le restaurant des athlètes, c'est 40 000 repas par jour. C'est le plus bon restaurant du monde. Voilà. Donc, ensuite, il y a...
Les athlètes, en plus, il faut les nourrir. Hein.
Les athlètes, il faut les nourrir, c'est clair. Et toi, 206 pays, tu as des différences culturelles, nutritionnelles.
Heureusement
par rapport
que tu m'as pas
à
table, parce que moi, tu sais, sans gluten, truc, la relou.
Ah ben non, mais je t'assure, il faut aussi... Il n'y a pas des relous. Hein.
Non,
au contraire, il y a des besoins. Il y a des besoins, et ces besoins, il faut qu'on puisse les satisfaire. Et là, il y a des besoins culturels, il y a des besoins religieux, il y a des besoins sportifs, nutritionnels, etc. Donc, voilà, c'est les mondes qui s'invitent à notre table, et il faut qu'on puisse le servir. Donc, le restaurant des athlètes, c'est quand on n'y irait pas. Ensuite, tu as tous les collaborateurs de Paris 2024, les 45 000 volontaires aussi, il fallait nourrir quand même.
Bon.
Il y a les médias.
Ah bah oui.
Tu as 20 000 journalistes accrédités, en plus tous les broadcasters, tous les services de médias qui vont travailler à préparer justement ces images. Et puis, il y a les spectateurs. On ne va pas les oublier quand même, les spectateurs qui viennent sur un site, qui vont s'acheter à manger, à boire. Donc, quand tu fais la somme de tout ça, il y a 13 millions de repas à servir. Et on s'est donné cette ambition, dire un repas en moyenne va avoir l'impact carbone de moitié par rapport à un repas français actuel.
Donc déjà, j'imagine réduire les protéines animales. Et viande, surtout.
Oui, nous, on préfère parler de doubler la quantité de végétales.
Ah, c'est mieux. Non, mais c'est mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
Donc, on préfère parler de doubler la quantité de végétales. Aussi, évidemment, faire appel à des produits des saisons.
Oui, les locaux, par exemple, tu vois, le chocolat, même si on ne le sait pas, je suis fan de chocolat, donc je peux te dire, voilà, je suis la première à m'infliger tous les soirs une gifle. Non, je rigole. Mais tu vois, le chocolat, en fait, chaque produit, même mangue, avocat, chocolat, tout ce qui est un peu pas local...
Eh bien, on va faire appel à 80% des produits produits en France. Les ingrédients de ces repas, à 80%, ils vont venir de France. Et les 20% restants, c'est tout simplement parce qu'on ne le trouve pas en France. Et justement, on doit répondre aux besoins alimentaires, notamment des athlètes. Mais pour les spectateurs, notamment.
Et c'est des chefs cuisiniers qui vous avez fait appel j'ai la liste, hein, je ne te vois pas. Pour justement tester des menus, etc.
En fait, avant de tester les menus, on a travaillé presque 2 ans à définir la vision de la restauration des jeux. Nous avons consulté l'ensemble de la chaîne de valeur, ça va des agriculteurs jusqu'au traitement des déchets, pour tout te dire. On a consulté tout le monde. C'est à peu près 200 personnes qui ont participé à cette consultation. En plein Covid, je te laisse imaginer les ateliers virtuels, etc., pour avoir justement la connaissance, les apports des uns et des autres, pour trouver un équilibre et se dire quelle est l'assiette la plus responsable qu'on puisse servir à l'été 2024. Et c'est comme ça qu'on a défini que, on arrive à 80% de Français, 20% d'étrangers, mais sans avion. Donc, on interdit les livraisons par avion. On aura 30% de bio. Donc, à un moment donné, peut-être certaines ont pu penser, pourquoi qu'est 30% ? Pourquoi autant ?
Pour le coup, moi, je ne me lance pas sur le sujet parce qu'entre le label et les prix...
On a trouvé... Il a fallu faire un équilibre entre ce qu'on trouve en France en été.
Mais c'est l'écologie, c'est le principe de l'écologie. C'est un jeu d'équilibriste tout le temps et de réajustement. Parce que le bio, tu peux avoir de la mangue bio. Hein. Donc, tu n'es pas du tout local. Hein.
Voilà. Donc, du coup, on a cherché, comme je disais, à se fournir aussi. 25% des produits, ils vont venir de 250 km à la ronde.
En fait, ton critère numéro un, j'ai l'impression, au-delà de réduire les protéines animales, c'est quand même le local. Hein. C'est l'ultra-local, j'ai l'impression.
Il n'y a pas un critère numéro
un. Non, d'accord.
Comme je t'ai dit, c'est une somme des critères qui nous ont aidés à déterminer l'équilibre le plus juste qu'on ait pu arriver à faire. Sur chaque produit.
Mais en fait, je te pose cette question parce que ça, c'est intéressant. C'est une question qu'on se pose tous quand on a des choix alimentaires à faire. On ne sait plus si on doit prendre du local, si on a que du bio, mais que ce n'est pas local. Si on a local, mais pas bio. C'est comme les œufs, l'histoire du label plein air et tout. En fait, c'est un jeu d'équilibriste constant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, comme exemple, ce que tu es en train de me dire. Comment, en fait, on s'en sort, en fait ? Quel est le critère ? Enfin, du coup, tu me dis qu'il n'y a pas de critère.
Il y a plusieurs critères. Ouais. Donc, tu mets dans la balance et tu cherches les meilleurs équilibres possibles.
Okay.
Et tu disais local, oui, mais des saisons,
saisons,
avant tout.
Oui, bien sûr, mettre deux saisons d'abord, et puis après.
On est en été, quel intérêt à avoir des morilles ?
En même temps, local et de saison, ça c'est un peu, c'est assez compatible, j'ai envie de te dire, parce que un producteur local fait quand même des produits de saison. Tu vois, il va pas t'apporter de la mangue, tu vois, typiquement. Donc c'est, je pense que les deux, mais bon, après c'est compliqué. Et du coup, le bio, bah s'il est pas bio, qui on fait confiance,
voilà. Équilibre,
c'est ça.
Trouver. Et la bonne nouvelle, c'est que à ceux qui s'intéressent, tout ce que je suis en train de dire, il est disponible sur le site de Paris 2024,
Bah voilà.
Donc paris2024.org. Vision pour la restauration, disponible en français et en anglais, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez voir, en fait, la soixantaine des critères sur lesquels on s'est engagé, qu'on peut résumer après en 6 critères majeurs, donc comme réduire l'impact carbone de moitié, comme réduire le plastique usage unique de 50%, ce qui nous a donné aussi tout un programme de repenser les systèmes de distribution de boissons avec Coca-Cola, qui est notre partenaire, Corence, qui, du coup, on installe, par exemple, 700 fontaines pour livrer la boisson sans avoir besoin de bouteilles à usage unique. Et 700 fontaines, c'est l'équivalent des 5 années d'opération de Coca-Cola en France. C'est, ouais. Donc, c'est de là qu'on
et
voit...
Et avec une gourde, du coup, les gens auront une gourde
Les gens, si on parle des spectateurs, ouais. Parce que les gens, ouais, toi, ouais, on a différents publics. Hein, ouais. On a 18 millions de boissons à servir. Dont la moitié, c'est des boissons qui vont être vendues, et l'autre moitié, ça va être distribué à des gens comme les collaborateurs, les athlètes, etc. Donc, les gens, il y a plusieurs gens pour nous, les spectateurs en particulier, ils vont avoir des gobelets consignés qui vont être réutilisés, qui sont lavés, réutilisés, etc. Donc, voilà, un gobelet consigné, ce n'est pas nouveau, on le connaît, mais à cette échelle, c'est là où ça change un peu la
donne. Est-ce qu'ils ne risquent pas de repartir avec leur gobelet consigné Est-ce qu'il est justement, il y a des logos, des machins qui changent et tout, qui font qu'on peut faire une collection, par exemple? Parce qu'on l'a vu avec des exemples comme même McDo, qui, tous leurs trucs réutilisables se font embarquer un peu. Il y a des limites, même si, enfin, plus magique, parce qu'on le voit finalement.
Bah, là, ça sera consigné. Donc, du coup, s'ils veulent récupérer
leur argent,
2 euros, il faut qu'ils le rendent.
Et j'imagine... Je pense que beaucoup vont quand même vouloir le garder en souvenir, en vrai.
Bon,
après, c'est le choix du c'est pas votre faute, hein. C'est le choix du consommateur de pas la jouer.
Peut-être. Une chose que je peux t'avancer, c'est qu'il y aura les logos olympiques et paralympiques dans le même gobelet.
Ouais. Donc, tu vas pas en faire deux différents, quoi.
Non. Ce qui nous a permis de réduire la quantité de gobelets à produire, simple.
Pas faire une collecte chez soi, quoi.
Donc, voilà, nous, en tout cas, on donne ça. Après, s'ils veulent aussi les transasser sur leur gourde perso, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir le faire. Mais en tout cas, les spectateurs ne toucheront pas une bouteille plastique. Voilà.
Et d'ailleurs, s'ils viennent avec, ils se la font enlever, non.
Ils vont pouvoir venir avec des gourdes, d'accord. Par exemple.
Donc, mais ici,
chose qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire. Et c'est quelque chose d'important pour nous.
En fait, on n'a pas le droit de venir avec une bouteille dans le stade.
Donc, les gens vont pouvoir venir avec leur gourde. C'est normal, il va faire chaud. Voilà. Donc, tous ces changements sur les systèmes de distribution de boissons, par exemple, où je te parlais des laboratoires au début de notre échange, c'est un énorme laboratoire. Donc là, on est en train d'essayer déjà dans des événements plus petits pour voir si les machines, elles fonctionnent bien. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est des nouvelles machines. Donc, est-ce que ça peut aller à la vitesse dont on a besoin, etc. Donc, chaque chose, il faut quand même essayer de les tester pour que cette expérimentation puisse vraiment être une réussite à l'échelle, à nouveau, à l'échelle des jeux. Et donc, voilà, c'est, comme tu peux imaginer, c'est un défi énorme. Mais on a, je pense... Voilà, cette possibilité de travailler ensemble, de faire des actions très, très concrètes pour à la fois réduire l'impact là où c'est possible et puis laisser des choses en héritage.
C'est ce que tu me disais au début. Ouais.
Voilà.
C'est quoi, par exemple, la chose la plus marquante que vous allez laisser en héritage, enfin, pour le moment,
de plus marquante, je pense qu'il y en aura beaucoup.
Mais une qui vient à l'esprit.
C'est même pas fait par Paris 2024, mais c'est autour des Jeux, c'est la scène baignable. Hein. Voilà, la scène baignable, je pense que en tant que Parisien, on va tous profiter à un moment donné de cette... Ne parlons même pas de la nature, juste nous-mêmes, on va être très à l'aise avec une scène baignable. Mais pour te donner un exemple où on ne s'attend peut-être pas, on parlait de réduire l'impact carbone. Nous, on a beaucoup appris dans les processus d'avoir cette préfiguration, d'estimer, de comprendre, de réduire. On a beaucoup appris. On s'est donné même une ambition d'un montant de carbone à ne pas dépasser. On a instauré toute une pratique de maîtrise d'impact carbone au sein de l'organisation. C'est assez innovant en tant qu'action managériale. Mais on a souhaité le partager avec le reste du monde du sport, parce que le reste du monde du sport n'a peut-être pas les moyens, c'est pas les jeux, ils n'ont peut-être pas les moyens de faire pareil. Donc on a créé un outil informatique, un outil web, qui est disponible aujourd'hui sur les sites du ministère du sport. Il est gratuit et il permet à n'importe quel organisateur d'un événement sportif, ça peut être la petite compète du coin ou les championnats régionaux, n'importe quel niveau ou quelle taille, d'estimer son impact carbone, de pouvoir visualiser, en fait, à la fois l'impact et comment le réduire. Et ça s'appelle les Coach Climat Événements. J'insiste, il est déjà actif, c'est déjà génial. Disponible, gratuit.
On trouve, du coup, il faut taper ça, on tape sur...
Déjà, on peut taper Coach Climat, ouais. Coach Climat Événements, on va le trouver, il n'y a pas beaucoup. Mais Coach Climat Événements, et c'est sur le site du ministère du Sport, parce que d'ailleurs, on a déjà pensé à l'héritage, en fait. Nous, dans un an et quelques, on va disparaître.
Mais donc, non, tu vas faire quoi, toi, après
bah, c'est vrai que
tu verras, on verra. On te retrouvera sur ton prochain poste.
Mais en tout cas, on s'était dit que c'était bien, déjà, ouais. Que ça soit sur les sites de ministère au sport.
C'est une belle empreinte.
Et c'est une belle empreinte.
Tu vois ?
Exactement.
Parfois, il y a des empreintes qui sont plus positives. Non, mais moi, c'est ce que je trouve... parce que forcément, les jeux vont quand même... in fine, carboné, etc. C'est normal, parce qu'il ne faut pas arrêter de vivre non plus avec l'écologie. C'est un peu, tu sais, quand on parle d'équilibrer, c'est qu'entre on fait plus, on arrête ça, on arrête ci, il y a beaucoup d'enjeux. Là, quand tu fais des jeux, il y a la mobilité, tu as du coup l'alimentation, tu as beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que le sport, c'est l'une des plus belles valeurs pour fédérer les gens autour d'autres sujets qui sont au-delà du sport. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'il y ait plus d'athlètes qui soient engagés. Je passe un appel d'ailleurs là aux athlètes, non, mais qui en parlent, parce qu'ils le sont, je pense, profondément, mais ils n'osent pas trop en parler. Et je pense que d'incarner encore plus ces valeurs et sans culpabiliser les gens, juste en leur donnant envie, je trouve ça génial. Et je pense que les jeux vont pouvoir réussir à montrer que de nouveaux modèles sont possibles, pas des modèles ni culpabilisants, ni contraignants, ni, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de morale dans l'histoire, et que ce soit juste, en fait, une nouvelle façon de vivre et de consommer. Et je pense que c'est comme ça qu'on va, en fait, aller tout doucement vers un monde meilleur, tu vois. Et donc, je trouve que, voilà, moi, je suis plutôt pour continuer à encourager, de toute façon, tout ce que vous faites, c'est quand même absolument génial. Et puis, continuer à laisser des belles empreintes comme ça. Enfin, moi, je trouve que vous êtes vraiment un lab d'innovation. Il y a de l'argent, puisqu'il y a des gens qui investissent, et je trouve que c'est génial aussi, tu vois, de pouvoir avoir des investisseurs. Tu vois, par exemple, tu me citais Coca-Cola, et moi, je peux être complètement transparente, je préfère qu'on inclue des marques comme ça pour financer justement ce type d'innovation, plutôt qu'on les exclue parce que, in fine, c'est elles qui produisent le plus de plastique, etc. Ce qui est vrai, donc le constat est fait. Mais si elles peuvent aider d'un autre côté à réduire des empreintes, etc., à vous rendre plus responsable, et donc elles aussi.
C'est à se réinventer un modèle.
Mais il faut embarquer les entreprises dans ce sens, en fait, justement. C'est à ça qu'elles servent. Et je pense que même elles vont pouvoir l'inclure dans leur modèle. Et tu vois, c'est un monde qui se transforme, en fait. Et il faut embarquer tout le monde, tu vois.
Oui, et merci pour ton appel au sport, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais combien de compétitions y en a par an en France ?
Je ne sais pas, mais moi, si je pouvais aller à toutes, je te jure, je suis une passionnée, j'irais à toutes. Donc me dis
il y
pas.
A 2 millions et demi de compétitions par an. Il y a 180 000 associations qui réunissent 3 millions et demi de bénévoles.
Ah ouais.
Donc, tu vois bien un peu la taille, la capacité d'entraînement de sport, et du coup, on espère de jeux aussi, pour montrer qu'un autre monde est possible, que d'autres pratiques sont possibles, et échanger ces pratiques de façon durable.
Ah, franchement, beau message. J'ai envie de conclure là-dessus. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose, toi ?
Écoute, te remercier pour cette opportunité de laisser une empreinte positive. J'espère te revoir aussi à Paris en 2024.
Ah bien sûr, je ne serai pas loin. Moi, de toute façon, j'habite à Boulogne. Donc, tu vois, je suis au milieu du stade Coubertin, de machin, de trucs. Je pense que je les verrai, les jeux, il n'y a pas de souci. Bon, merci et merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.